أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers sœurs, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui nous allons parler de notre grand imam, Imam Zainul Abidin alayhi salam, puisque nous devions faire un majalis le jour de son shahadat et puis nous avons reporté pour aujourd'hui. Donc ce qu'il est important de savoir, c'est que tout le monde entier admire ses prières, son adoration, mais d'un autre côté, c'est vrai que quand on demande aux gens, quand on demande même aux mouménines, aux mouménates, à notre communauté, ce qu'ils peuvent dire à propos d'Imam Zainul Abidin, ce qui est dommage, c'est que souvent, on ne connaît la vie d'Imam Zainul Abidin qu'à travers Karbala et à travers toutes les souffrances, toutes les difficultés qu'il a dû endurer. Et donc on ne se rend pas compte du rôle vraiment d'Imam qu'il a joué tout au long de sa vie et surtout après Karbala, comment ça s'est passé. Donc je vais un petit peu me concentrer sur la vie avant Karbala et puis après Karbala, mais je ne vais pas trop mentionner tout ce qui s'est passé pendant l'année 61 et après tout ce qui s'est passé aussi quand toute la caravane est partie, etc. Parce que ça, ce sont des choses que nous connaissons déjà. Alors donc Imam est né le 5 Chaban de l'an 38 à H. Et donc sa maman s'appelait Shahzanan. Elle était donc une princesse persienne. Donc elle était la fille du dernier empereur de Perse. C'est une chose très importante parce que nous verrons qu'est-ce que ça va engendrer, qu'est-ce que ça va impliquer. Alors quand la Perse a été conquise, d'accord, par Jabin bin Hurais, à ce moment-là, elle était la première dame à s'être convertie à l'islam. Donc, elle s'était convertie à l'islam. Ensuite, Imam Ali l'a choisie pour qu'elle épouse donc son fils Imam Hussein. Et donc, c'est comme ça qu'elle deviendra la maman d'Imam Zainul Abidin. Donc, c'était vraiment un choix qui a été fait. Et donc, lorsque nous regardons la lignée des imams, la lignée des Ahlul Bayt, c'est le premier imam qui va se marier avec une femme qui n'est pas arabe. Et c'est très important parce qu'à cette époque-là, les Arabes et les Perses se détestaient. Donc, il y avait une très grande rivalité parce que vous vous souvenez que c'était des empires à cette époque-là, d'accord ? Donc, il y avait une rivalité très forte entre les Arabes et les Perses, et justement le fait que Imam Ali a choisi exprès une femme perse pour son fils Imam Hussein, c'est pour justement supprimer ce racisme, en tout cas l'atténuer, et puis pour créer des liens entre la Perse et l'Arabie, d'accord, et le monde arabe. Et d'ailleurs, le calife Omeyyade, ça va être une première, si vous voulez, qui va être suivie par d'autres. Et d'ailleurs, le calife Omeyyade lui-même, Abdul Malik bin Marwan, lui aussi, il va épouser une Perse. Donc vous voyez que petit à petit, les relations entre l'Arabie Saoudite, entre l'Arabie de l'époque et la Perse vont en s'accélérant. D'accord ? Et pour un peu vous illustrer le racisme qu'il y avait, donc ce calife Abdul Malik bin Marwan, qui avait épousé une Perse, quand il demande en mariage la fille de quelqu'un qui s'appelle Aqil al-Mouri, donc il demande la fille de quelqu'un en mariage pour son fils, donc son fils qui est métis, puisque sa femme est perse, à ce moment-là, Aqil al-Mouri, il le refuse, il lui dit « Comment tu oses venir vers moi alors que ton fils est métissé et moi je veux absolument quelqu'un, un arabe de sang, de pur sang, pour ma fille. » Et donc vous voyez que même si le racisme était atténué, ça continuait, c'était encore dans les mœurs, dans les mentalités de l'époque. D'accord ? Alors donc ce qui se passe aussi, c'est que donc de plus en plus de mariages mixtes vont avoir lieu, à partir de ce premier mariage entre Imam Hussein et Bibi Sherbanu. Alors justement, la maman de notre quatrième imam qui s'appelait Shahzanan, ça voulait dire, ça désignait Sayyid al-Nisa' al-Alamin en Perse. Et comme Sayyid al-Nisa' al-Alamin, c'est le titre de Sayyid al-Fatima Zahra alayhi salam, donc on a changé son nom et on l'a appelé, plus tard on l'a appelé Sherbanu. C'est pour cela qu'on a changé son nom. Donc, ces échanges donc se sont faits non seulement par l'intermédiaire des mariages, mais aussi au niveau de la littérature. Et la littérature de l'époque était très très riche. Donc ce qui fait qu'il y a eu des traductions d'ouvrages très connus, très classiques, du perse vers l'arabe et vice-versa. Donc il y a eu un très grand essor aussi intellectuel qui a accompagné cette mixité qui a eu lieu à travers ces mariages. Alors, la triste nouvelle pour Imam Zainul Abidine, c'est qu'il a perdu sa mère alors que donc, sa mère lui a donné naissance et il n'a pas connu sa mère finalement. Et du coup, il était élevé donc, par sa mère, mais aussi par... ses différentes belles-mères, d'accord, puisque Imam Hussein avait épousé d'autres femmes. Et justement, en parlant de belles-mères, il y a une anecdote très connue concernant Imam Zainul Abidine, c'est que quand il s'asseyait à table, si je peux appeler à table, même si à l'époque ce n'était pas vraiment des tables, donc lorsqu'il s'asseyait pour le dîner, pour le déjeuner, avec sa belle-mère, qu'il considérait comme sa propre mère, il ne prenait rien à manger. Et sa belle-mère lui demandait, mais pourquoi est-ce que vous ne vous servez pas? Pourquoi vous me regardez comme ça? Et Imam Zainul Abidine répondait que je ne veux pas que vous regardiez un plat, que quelque chose vous intéresse, que vous ne vous êtes pas encore servi, et que moi je me sers en premier. Je ne peux pas supporter que vous étiez intéressé par un plat qui est sur la table, et que... c'est moi qui me suis servie avant, donc il attendait qu'elle s'est servie, c'est rien qu'après qu'elle se servait. Donc, même si ce n'était pas sa mère biologique, vous voyez qu'il il avait un très grand respect hein, pour sa belle-mère qu'il avait élevée. Justement, donc, on va voir comment est-ce que, après Karbala, Imam Zainul Abidine va réformer la société. Parce que si on réfléchit bien, ce sont des musulmans même qui ont assassiné le petit-fils du prophète, d'accord? En plus de cela, toutes ces personnes-là, finalement, sont dans la même famille. Si on remarque bien, il y a des personnes dans le camp de Yazid qui sont famille avec les Ahlul Bayt, d'accord? Donc, la société telle qu'elle est maintenant, la société dans laquelle se trouve Imam Zainul Abidine est vraiment dans un gouffre total. Elle est dans un état catastrophique, si on peut se permettre, puisque, comme on a vu, donc, Imam Hussein a été shahid, les gens n'ont pas compris le message, et donc il y a tout un travail que Imam Zainul Abidine doit faire pour réformer cette société dans laquelle il vit. Et pour cela, il va procéder de différentes manières, d'accord, pour réformer cette société. La première chose qu'il va faire, c'est d'éduquer les domestiques. D'accord? Alors, il se rend compte que cette société arabe, elle est arrivée à un tel point que de toute façon, les Arabes, ils ont un esprit très fermé et ils ne vont pas comprendre les choses. Donc, Imam Zainul Abidine va emmener un maximum de domestiques chez lui et il va les éduquer, il va leur inculquer, donc il va leur expliquer qui sont les Ahlul Bayt, etc., pour que petit à petit, c'est eux qui répandent ce message. Comme vous le savez, durant tout le trajet de Karbala à Koufa, de Koufa à Cham à Damas, ce qui s'est passé, les gens, ils ne savaient pas que là, c'était le petit-fils du prophète qui a été tué. On avait fait une fausse propagande, une fausse rumeur, on avait fait une fausse publicité en disant que ça, ce sont des brigands, ce sont des gens qui, ce sont des rebelles, etc. Donc, la vérité était étouffée. Et donc, Imam Zainul Abidine voulait absolument, cette fois-ci, il devait faire comprendre aux gens qui étaient les Ahlul Bayt, etc. Donc, c'est en amenant chez lui qu'il va commencer cette réforme-là. Donc, il va emmener un maximum de domestiques chez lui. Ces domestiques-là vont justement apprendre, vont être finalement ses élèves, d'accord? Et on a énormément d'anecdotes concernant justement ses domestiques. Notamment, une fois, il appelle un de ses domestiques, ne vient pas. Il l'appelle une deuxième fois, il ne vient toujours pas. Troisième fois, il ne vient toujours pas, et ce n'est qu'à la quatrième fois qu'il vient. Alors, Imam Zainul Abidine lui dit, mais c'est la quatrième fois que je t'appelle, est-ce que tu ne m'as pas entendu? Alors, vous savez ce que le domestique, il a dit? Il a dit, si, je vous ai entendu. Mais, alors, Imam lui dit, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu dès que j'étais appelé? Il dit, je voulais goûter à la grâce de Imam Zainul Abidine, alayhissalam. Parce que chez tous les domestiques ou chez tous les maîtres chez qui on a travaillé jusqu'à présent, si on ne venait pas du premier coup, on recevait des coups de fouet. Mais vous n'êtes même pas, ce n'est même pas une relation de maître-esclave qu'il y a entre nous, mais c'est vraiment une relation d'amis qu'il y a. Et donc, vous voyez comment il traitait ses domestiques avec humilité. Vous avez une autre anecdote concernant un domestique qui servait, c'était même une dame, c'était une domestique qui servait de la soupe à Imam. Et sans faire exprès, elle a renversé de la soupe sur Imam. Et donc, elle a commencé à trembler, elle s'est dit, parce que c'était ce qui se passait à cette époque-là, on maltraitait les domestiques, les esclaves, etc. C'était l'époque de l'esclavage. Donc, la dame, la servante, elle avait très très peur en se disant que Imam va se fâcher. Et du coup, elle commence à réciter des versets du Coran. Elle dit, « Walkadimin al-gayf » ceux qui contiennent leur colère. Et puisqu'elle dit ce morceau du verset du Coran, à ce moment-là, Imam lui répond, « Mais j'ai retenu ma colère, j'ai avalé ma colère. » C'est-à-dire que je ne suis pas enragée. Et ensuite, elle dit, « Walafina al-inna » ceux qui pardonnent les autres. Imam est tellement heureux de ce qu'elle dit, que Imam lui dit, je t'ai pardonné, mais pas seulement ça, je te libère, tu es libre, tu peux t'en aller. Car Allah aime les bienfaisants. Donc vous voyez, ce qui est extraordinaire là-dedans, ce n'est pas que Imam est très gentil avec les domestiques et tout ça, ça fait partie des qualités de Imam. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que les domestiques de Imam, à force de rester avec Imam, ils connaissent le Coran par cœur. Et maintenant, ils parlent à travers le Coran. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, il y a une autre anecdote où on raconte qu'il y avait une période de forte sécheresse. Donc, une période de forte sécheresse dans la ville. Et du coup, il n'avait pas plu depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et les gens étaient très angoissés. Parce que, comme vous savez, dans ces pays désertiques, quand il ne pleut pas, c'est très, très embêtant. Quand il fait très sec comme ça, rien ne pousse, etc. Et du coup, Imam dit à toute la population, venez tous et puis nous allons demander, nous allons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons faire doua pour qu'il pleuve. Donc, tous les domestiques d'Imam et tous les partisans, etc. viennent et ils demandent, ils font doua pour la pluie, mais il n'y a pas de pluie. Et puis tout le monde rentre chez eux, chacun rentre chez soi, etc. Mais il reste un seul des domestiques d'Imam Zainul Abidine qui reste et qui s'isole et qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala. À peine fait-il doua que la pluie commence à tomber. Et justement, donc la personne qui raconte ceci, c'est Saïd bin Moussaïb. Alors, Saïd bin Moussaïb, pardon. Alors, il explique que moi je voyais toute la scène, je voyais que ce domestique noir était en train de prier, et puis par miracle, alors que nous tous on avait prié mais rien ne s'était produit, là, par miracle, il y a la pluie. Donc il dit, je suis allé chez Imam Zainul Abidin alayhi salam et j'ai dit, oh Imam, je voudrais acheter un de vos domestiques. À ce moment-là, Imam dit, mais il n'y a pas besoin de l'acheter, je vous offre un de mes domestiques si ça vous plaît. Du coup, cet homme regarde parmi tous les domestiques qui sont là et il dit, non, celui que je veux, moi, il n'est pas ici. À ce moment-là, il m'a dit, oui, en effet, il en manque un, mais il n'est pas encore revenu. Et puis, dès que cet homme voit ce domestique-là, il dit, voilà, c'est lui que je veux, je veux absolument prendre avec moi. Et donc, il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci et tout. Et puis, il part avec le domestique. Et ce domestique, il ne comprend rien, parce qu'il pensait qu'il était tout seul, que personne ne le voyait, il demandait dua en toute sincérité, il conversait avec Allah subhanahu wa ta'ala en toute intimité, et il ne savait pas que quelqu'un l'avait remarqué, l'avait vu. Et du coup, il demande à l'imam, mais pourquoi est-ce qu'il veut absolument me récupérer? Vous voyez que ces domestiques-là étaient tellement attachés à l'imam qu'ils ne voulaient pas quitter la maison de l'imam. Il dit, pourquoi est-ce qu'il veut me prendre? C'est parce qu'il t'a vu que tu as fait doua. Et sur le chemin, ce domestique, il parle à Allah, il dit, mais dans ce cas-là, si mon secret, il est vraiment pas à l'aise parce que il était en intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala et il n'a pas aimé le fait que quelqu'un a vu, en fait, s'est mis entre dans cette intimité-là. Donc, vous voyez comment est-ce que l'imam va former ces domestiques-là. Et ensuite, il va leur demander, une fois qu'il les a éduqués, il les a formés, il va leur demander de faire le tabligh chez les gens. D'accord ? Il va leur demander... Il va leur expliquer, il va leur dire d'expliquer aux gens qui était Imam Hassan, qui était Imam Hussein, etc. pour que justement toute cette propagande, toute cette fausse publicité qui a eu lieu, pour justement essayer de contrer ceci. Et donc de temps en temps, Imam demandait des comptes, disait comment ça se passe, faisait un bilan, etc. Et les domestiques racontaient que beaucoup de gens ne sont pas prêts à accepter le message. À ce moment-là, l'imam disait toujours parlez plutôt aux jeunes parce que leurs cœurs seront plus réceptifs, alors que les anciens, ils sont plus obstinés, et etc. Et puis bon, vous savez que quand il y a eu toutes ces propagandes-là, ce n'est pas évident de changer les mentalités, etc. Donc, il y a une partie de la réforme s'est faite à travers les domestiques. Ensuite, une deuxième arme pour la réforme d'Imam Zain al-Abidine, c'est le doua, d'accord ? Et notamment le livre de doua qu'Imam a écrit, d'accord ? Contenant 51 doua, le Saifa-i Sajjadia. D'ailleurs, Imam lui-même a dit que le doua est l'arme du croyant et la lumière qui irradie le ciel et la terre. Et justement, pourquoi un livre de doua ? Parce que ces gens-là, dans cette société, après avoir assassiné le petit-fils du prophète, ils manquent de spiritualité. Donc, pour justement apporter une certaine spiritualité dans cette société, il y a besoin de doua. Pour justement me connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous remarquez bien dans le Saifa-i Sajjadia, le Saifa-i Kamila d'Imam Zain al-Abidine, il y a des doigts pour chaque personne. Il y a le doigt pour la mère, il y a le doigt pour le père, il y a le doigt pour les enfants, il y a le doigt pour les oklab, il y a le doigt pour les compagnons du prophète, etc. Donc, il y a des doigts pour chaque occasion aussi. Donc, le but est de renouer avec Allah subhanahu wa ta'ala et de gagner en spiritualité. D'accord ? Notamment, vous avez, certains d'entre vous ont rencontré Leïla Sourani. Quand elle était venue la première fois ici à Saint-Denis, il y a maintenant quelques années, justement, on parlait avec elle et tout pour lui demander pourquoi est-ce que les éditions BA, donc qu'elle dirige ou co-dirige, ou en tout cas dont elle fait partie de cette équipe-là, pourquoi est-ce que vous vous êtes concentré sur les doigts? Parce qu'ils avaient sorti plusieurs livres de doigts, Invocation avec Dieu, Entretien intime avec Dieu, etc., en plusieurs livres. Et puis après, ils ont sorti le Mofati en entier, etc. Et ce n'est qu'après qu'ils ont démarré toute cette série sur les imams. Et justement, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, d'abord, il faut apporter une connexion entre l'homme et le créateur. Donc c'était ce lien-là qu'il fallait absolument d'abord privilégier. Et c'est après qu'ils ont commencé à publier les autres choses. Donc le Saifa-i Sajjadia, c'est en même temps une possibilité pour l'imam de faire le tabligh, d'accord ? Parce qu'il ne pouvait pas le faire ouvertement. Donc il va se servir du doigt pour justement, par exemple, le doigt sur les oklak, etc., pour justement essayer de faire le tabligh aussi, d'inculquer les enseignements aux gens. Donc, cette société qui est centrée sur le jeu, d'accord, qui est égoïste, etc., imam voudrait que maintenant elle se tourne vers les autres, elle respecte les autres, etc. Ce que cette communauté-là avait complètement oublié, c'est le nous, ils ne se respectaient plus du tout les uns les autres. Hein. Donc, c'est ce qu'il veut faire. Alors, vous savez que le Seyfe Sejadia était dans la bibliothèque du Vatican. Eh bien, un frère musulman qui avait eu l'occasion de visiter le Vatican, de se rendre au Vatican et de visiter, a posé la question, pourquoi est-ce que vous gardez un livre comme celui-ci? Et le pape avait répondu à ce moment-là que ce livre-là, il est plus puissant que les psaumes de David, ça veut dire le Zabur de Nabi Daoud al-Islam. Donc, si on regarde bien, l'intérieur du Seyfe Sejadia, ce qu'il y a, ce que ça implique, etc., les doigts, quand on lit les traductions, on se rend compte que c'est un livre très puissant, d'accord, et que même les chrétiens, ils se rendent compte de la valeur de ce livre-là. Il y a notamment dans le Seyfe Sejadia le doigt Makarimul Akhlaq, qui est un doigt justement où Imam Zainul Abidine parle des akhlaq et du siletu rahm, ça veut dire les liens entre les membres de la famille. Parce que justement, les gens avaient rompu les liens familiaux, la sœur ne parlait plus avec le frère, la belle-mère ne parlait plus avec la belle-fille, etc. Et les cousins ne se parlaient plus entre eux. Il y avait cette rupture à l'intérieur des familles. Et c'est ce que l'imam voulait justement renouer. Alors en parlant de famille, il y a une anecdote concernant un des cousins d'imam Zainul Abidin al-Islam. Donc un des cousins d'imam Zainul Abidin était très endetté. Et il venait voir l'imam et il disait « Pourquoi est-ce que tu ne m'aides pas ?» etc. Et il n'était pas du tout content d'imam. Et du coup, il insultait l'imam. Devant tout le monde, à chaque occasion, etc., matin et soir, il n'arrêtait pas d'insulter l'imam. Et puis, quelques jours après le shahadat d'imam, quand ce cousin-là, ce monsieur, est allé voir notre cinquième imam, imam Mohamed El-Bakir, et il dit, il y avait quelqu'un qui portait un abba et qui venait m'apporter à manger le soir, et ça fait quelques jours qu'il ne vient plus, est-ce que tu sais c'était qui? Et il dit oui, c'était votre cousin, mon père, Imam Zainul Abidin, qui venait vous apporter à manger, et comme maintenant il n'est plus de ce monde, c'est pour cela que vous ne trouvez plus rien. Ce même cousin que vous insultiez dans la journée, la nuit, c'est lui qui venait déguisé pour vous apporter à manger. Donc vous voyez comment étaient les akhlaq même d'Imam Zainul Abidin. Donc ce n'est pas seulement qu'il a écrit les choses, mais il les appliquait dans la vie courante. Le deuxième livre qu'il écrit, c'est le Risalatul Huquq, le droit, hein, l'épître sur les droits, et dont on avait parlé, d'ailleurs je vous avais emmené des photocopies une fois, on en avait parlé, et justement, donc ici, vous avez les droits des parents, les droits de l'instituteur, le droit des voisins, le droit des mains, des pieds, de la bouche, le droit de la prière, etc. Donc, le droit de tout un chacun et aussi des différents membres de notre corps, aussi des différentes actions, etc. Aujourd'hui, aux Nations Unies, nous avons la déclaration des droits de l'homme. Mais est-ce que dans la déclaration des droits de l'homme, on a le droit de Dieu, on a le droit des voisins, etc., tous ces droits-là? Et justement, imam, en parlant des droits des autres, justement, va renforcer les liens dans la société entre les gens. D'accord? Parce que, comme je vous explique, les gens étaient très égoïstes, il y avait beaucoup de chacun pour soi, les gens n'étaient pas prêts à aller vers l'autre, etc. Et puis, ils n'hésitaient pas, hein, d'ailleurs, à s'entretuer, à commencer des guerres interminables, etc. Alors, parmi les titres d'Imam Zainul Abidin, vous avez donc Sajjad, hein, qui vient de Sajda, consternation, donc celui qui parle beaucoup. Vous avez Zainul Abidin, qui veut dire le joyau des adorateurs. Donc, pareil, par rapport à tous les titres qu'il a, c'est par rapport à son adoration, par rapport à ses prières, d'accord? Et puis vous avez un autre qui est Zul Thafanat. Alors Thafanat, ça veut dire les callosités. Ça veut dire que quand le chameau, la peau du chameau, elle pèle parce que à force de frotter le sol, d'accord? Donc c'est exactement ce qui se passait au niveau du front d'Imam Zainul Abidine. Tellement il était ardu, tellement il était très, il faisait beaucoup de prosternation, etc. Et donc son front ressemblait à la peau justement des genoux du chameau. Et c'est pour cela que on lui a donné ce nom-là. J'ai oublié de vous dire aussi que une autre partie de la réforme a aussi été faite à travers les compagnons d'imam. D'accord? Donc c'est aussi à travers ses compagnons qu'il va propager le message. Donc parmi ses compagnons, vous avez Abu Hamza Soumali, donc vous avez le doua que l'on récite souvent durant le mois de Ramadan. Vous avez Saïd bin Jumeir, vous avez notamment Komel, qui était aussi un des compagnons d'Imam Zainul Abidine. Alors, donc, le gouverneur de Medina, Hisham bin Ismail, il était très mauvais envers Imam Zainul Abidine alayhi salam. Donc, à chaque fois que Imam sortait de chez lui, etc., il ordonnait aux gens de jeter des choses sur lui, de mettre des obstacles sur sa route, etc. Donc, il maltraitait, il essayait de faire un maximum de mauvaises choses sur Imam Zainul Abidine. Et puis, comme on dit, la roue tourne, et puis, donc, ce Hisham va être destitué et viendra à sa place Umar bin Abdulaziz, qui deviendra le gouverneur de Medina. Alors, Umar bin Abdulaziz, comme il en voulait à Hisham, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'enchaîner à un mur, et puis il dit à tous les gens de Medina, il dit tout le peuple de Medina, ceux à qui Hisham a fait du mal, vous pouvez venir et vous pouvez le maltraiter, puisque maintenant il ne peut rien faire parce qu'il était enchaîné, d'accord? Et à ce moment-là, les partisans d'Imam, les compagnons d'Imam sont venus raconter la nouvelle à Imam. Vous savez ce qui s'est passé? Hisham, il a été enchaîné, et le nouveau gouverneur, Omar, il a dit que si on veut venir se venger de lui, eh bien c'est l'occasion. Alors Imam leur demande, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Il dit, ah ben nous on comptait bien nous venger pour une fois qu'on en a la possibilité. Imam a dit, non. Surtout, vous ne lui faites absolument rien. Et puis, Imam va aller en personne pour voir justement Hisham. Et dès que Imam s'approche, Hisham, il a très très peur parce que c'est vraiment la personne à qui il a fait le plus de mal. Et Imam lui dit, je suis venu te dire que si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin de quelque chose à manger, si tu veux quelque chose à boire, si tu as besoin d'aide, moi je suis là pour t'aider. Donc, vous voyez comment est-ce que Imam était bienveillant même envers ses ennemis.